Le Lys dans la vallée, chapitre 21. Mon rapide voyage fut comme un rêve, mais un rêve de joueur ruiné. J'étais au désespoir de ne point avoir reçu de nouvelles. Le confesseur avait-il poussé la rigidité jusqu'à m'interdire l'accès de Clochegourde? J'accusais Madeleine, Jacques, l'abbé Dominis, tout, jusqu'à Monsieur de Mortsauf. Au-delà de Tours, en débouchant par les ponts Saint-Sauveur, pour descendre dans le chemin bordé de peupliers qui mène à Poncher et que j'avais tant admiré quand je courais à la recherche de mon inconnu, je rencontrai M. Origet. Il devina que je me rendais à Clochegourde et je devinais qu'il en revenait. Nous arrêtâmes chacun notre voiture et nous en descendîmes, moi pour demander des nouvelles et lui pour m'en donner. « Eh bien, comment va Madame de Mortsauf ?» lui dis-je. « Je doute que vous la trouviez vivante, » me répondit-il. « Elle meurt d'une affreuse mort. Elle meurt d'inanition. Quand elle me fit appeler au mois de juin dernier, aucune puissance médicale ne pouvait plus combattre la maladie. Elle avait les affreux symptômes que Monsieur de Mortsauf vous aura sans doute décrits, puisqu'il croyait les éprouver. Madame la comtesse n'était pas alors sous l'influence passagère d'une perturbation due à une lutte intérieure que la médecine dirige et qui devient la cause d'un état meilleur ou sous le coup d'une crise commencée et dont le désordre se répare. Non, la maladie était arrivée au point où l'art est inutile. C'est l'incurable résultat d'un chagrin, comme une blessure mortelle est la conséquence d'un coup de poignard. Cette affection est produite par l'inertie d'un organe dont le jeu est aussi nécessaire à la vie que celui du cœur. Le chagrin a fait l'office du poignard. Ne vous y trompez pas. Madame de Mortsauf meurt de quelque peine inconnue. Inconnue ? Dis-je. Ses enfants n'ont point été malades ? Non, me dit-il en me regardant d'un air significatif. Et depuis qu'elle est sérieusement atteinte, M. de Mortsauf ne l'a plus tourmentée. Je ne suis plus utile. M. Deslandes d'Azay suffit. Il n'existe aucun remède, et les souffrances sont horribles. Riche, jeune, belle, et mourir maigrie, vieillie par la faim, car elle mourra de faim. Depuis 40 jours, l'estomac étant comme fermé, rejette tout aliment, sous quelque forme qu'on le présente. Monsieur Origet me pressa la main que je lui tendis. Il me l'avait presque demandé par un geste de respect. « Du courage, monsieur, » dit-il en levant les yeux au ciel. Sa phrase exprimait de la compassion pour des peines qu'il croyait également partagées. Il ne soupçonnait pas le dard envenimé de ses paroles qui m'atteignirent comme une flèche au cœur. Je montai brusquement en voiture, en promettant une bonne récompense au postillon si j'arrivais à temps. Malgré mon impatience, je crus avoir fait le chemin en quelques minutes, tant j'étais absorbée par les réflexions amères qui se pressaient dans mon âme. Elle meurt de chagrin, et ses enfants vont bien. Elle mourrait donc par moi. Ma conscience menaçante prononça un de ces réquisitoires qui retentissent dans toute la vie, et quelquefois au-delà. Quelle faiblesse et quelle impuissance dans la justice humaine. Elle ne venge que les actes patents. Pourquoi la mort et la honte au meurtrier qui tue d'un coup, qui vous surprend généreusement dans le sommeil et vous endort pour toujours, ou qui frappe à l'improviste en vous évitant l'agonie? Pourquoi la vie heureuse? Pourquoi l'estime au meurtrier qui verse goutte à goutte le fiel dans l'âme et mine le corps pour le détruire? Combien de meurtriers impunis! Quelle complaisance pour le vice élégant! Quel acquittement pour l'homicide causé par les persécutions morales! Je ne sais quelle main vengeresse leva tout d'un coup le rideau peint qui couvre la société. Je vis plusieurs de ces victimes qui vous sont aussi connues qu'à moi. Madame de Beauséant partie mourante en Normandie quelques jours avant mon départ. La duchesse de Langeais, compromise. Lady Brandon arrivée en Touraine pour y mourir dans cette humble maison où Lady Dudley était restée 2 semaines et tuée par quel horrible dénouement. Vous le savez, Notre époque est fertile en événements de ce genre. Qui n'a connu cette pauvre jeune femme qui s'est empoisonnée, vaincue par la jalousie qui tuait peut-être Madame de Mortsauf? Qui n'a frémi du destin de cette délicieuse jeune fille qui, semblable à une fleur piquée par un temps, a dépéri en 2 ans de mariage, victime de sa pudique ignorance, victime d'un misérable auquel Ronquerolles, Montriveau de Marsay, donnent la main parce qu'ils servent leur projet politique? Qui n'a pas palpité au récit des derniers moments de cette femme qu'aucune prière n'a pu fléchir et qui n'a jamais voulu revoir son mari après en avoir si noblement payé les dettes? Madame d'Aiglemont n'a-t-elle pas vu la tombe de bien près et sans les soins de mon frère vivrait-elle? Le monde et la science sont complices de ces crimes pour lesquels il n'est point de cour d'assises. Il semble que personne ne meure de chagrin, ni de désespoir, ni d'amour, ni de misère cachée, ni d'espérance cultivée sans fruit, incessamment replantée, déracinée. La nomenclature nouvelle a des mots ingénieux pour tout expliquer. La gastrite, la péricardite, les 1000 maladies de femmes dont les noms se disent à l'oreille servent de passeport aux cercueils escortés de larmes hypocrites que la main du notaire a bientôt essuyées. Y a-t-il au fond de ce malheur quelque loi que nous ne connaissons pas? Le centenaire doit-il impitoyablement joncher le terrain des morts et le dessécher autour de lui pour s'élever, de même que le millionnaire s'assimile les efforts d'une multitude de petites industries? Y a-t-il une forte vie venimeuse qu'il se repaît des créatures douces et tendres? Mon Dieu, appartenais-je donc à la race des tigres? Le remords me serrait le cœur de ses doigts brûlants, et j'avais les joues sillonnées de larmes quand j'entrais dans l'avenue de Clochegourde par une humide matinée d'octobre qui détachait les feuilles mortes des peupliers dont la plantation avait été dirigée par Henriette dans cette avenue où naguère elle agitait son mouchoir comme pour me rappeler. Vivait-elle? Pourrais-je sentir ses deux blanches mains sur ma tête prosternée? En un moment, je payais tous les plaisirs donnés par Arabelle et les trouvais chèrement vendus. Je me jurais de ne jamais la revoir, et je pris en haine l'Angleterre. Quoique Lady Dudley soit une variété de l'espèce, j'enveloppais toutes les Anglaises dans les crêpes de mon arrêt. En entrant à Clochegourde, je reçus un nouveau coup. Je trouvai Jacques, Madeleine et l'abbé de Dominis agenouillés tous trois au pied d'une croix de bois plantée au coin d'une pièce de terre qui avait été comprise dans l'enceinte lors de la construction de la grille et que ni le comte ni la comtesse n'avaient voulu abattre. Je sautai hors de ma voiture et j'allai vers eux le visage plein de larmes et le cœur brisé par le spectacle de ces deux enfants et de ce brave personnage implorant Dieu. Le vieux piqueur y était aussi, à quelques pas, la tête nue. « Eh bien, monsieur, » dis-je à l'abbé de Dominis, en baisant au front Jacques et Madeleine qui me jetèrent un regard froid, sans cesser leur prière. L'abbé se leva, je lui pris le bras pour m'y appuyer en lui disant « Vit-elle encore ?» Il inclina la tête par un mouvement triste et doux. « Parlez, je vous en supplie, au nom de la passion de notre Seigneur. Pourquoi priez-vous au pied de cette croix? Pourquoi êtes-vous ici et non près d'elle? Pourquoi ces enfants sont-ils dehors par une si froide matinée? Dites-moi tout, afin que je ne cause pas quelque malheur par ignorance. » Depuis plusieurs jours, Madame la Comtesse ne veut voir ses enfants qu'à des heures déterminées. « Monsieur, reprit-il après une pause, peut-être devriez-vous attendre quelques heures avant de revoir Madame de Mortsauf. Elle est bien changée. Mais il est utile de la préparer à cette entrevue. Vous pourriez lui causer quelque surcroît de souffrance. Quant à la mort, ce serait un bienfait. » Je serrai la main de cet homme divin dont le regard et la voix caressaient les blessures d'autrui sans les aviver. « Nous prions tous ici pour elle, » reprit-il, « car elle, si sainte, si résignée, si faite à mourir, depuis quelques jours elle a, pour la mort, une horreur secrète. Elle jette sur ceux qui sont pleins de vie des regards où, pour la première fois, se peignent des sentiments sombres et envieux. Ses vertiges sont excités, je crois, moins par l'effroi de la mort que par une ivresse intérieure, par les fleurs fanées de sa jeunesse qui fermentent en se flétrissant. Oui, le mauvais ange dispute cette belle âme au ciel. Madame subit sa lutte au mont des oliviers. Elle accompagne de ses larmes la chute des roses blanches qui couronnaient sa tête de jephtés mariées et tombées une à une. Attendez, ne vous montrez pas encore. Vous lui apporteriez les clartés de la cour. Elle retrouverait sur votre visage un reflet des fêtes mondaines et vous rendriez de la force à ses plaintes. Ayez pitié d'une faiblesse que Dieu lui-même a pardonnée à son fils devenu homme. Quel mérite aurions-nous d'ailleurs à vaincre sans adversaire? Permettez que son confesseur ou moi, deux vieillards dont les ruines n'offensent point sa vue, nous la préparions à une entrevue inespérée, à des émotions auxquelles l'abbé Birotteau avait exigé qu'elle renonçât. Mais il est, dans les choses de ce monde, une invisible trame de causes célestes qu'un œil religieux aperçoit. Et si vous êtes venu ici, peut-être y êtes-vous amené par une de ces célestes étoiles qui brillent dans le monde moral et qui conduisent vers le tombeau comme vers la crèche. Il me dit alors, en employant cette onctueuse éloquence qui tombe sur le cœur comme une rosée, que depuis 6 mois, la comtesse avait chaque jour souffert davantage malgré les soins de M. Origet. Le docteur était venu pendant 2 mois tous les soirs à Clochegourde, voulant arracher cette proie à la mort, car la comtesse avait dit « Sauvez-moi !» Mais pour guérir le corps, il aurait fallu que le cœur fût guéri. C'était un jour écrié le vieux médecin. Selon les progrès du mal, les paroles de cette femme si douce sont devenues amères, me dit l'abbé de Dominis. Elle crie à la terre de la garder, au lieu de crier à Dieu de la prendre. Puis elle se repent de murmurer contre les décrets d'en haut. Ces alternatives lui déchirent le cœur et rend horrible la lutte du corps et de l'âme. Souvent le corps triomphe. « Vous me coûtez bien cher », a-t-elle dit un jour à Madeleine et à Jacques en les repoussant de son lit. Mais en ce moment, rappelée à Dieu par ma vue, elle a dit à Mademoiselle Madeleine ses angéliques paroles « Le bonheur des autres devient la joie de ceux qui ne peuvent plus être heureux. » Et son accent fut si déchirant que j'ai senti mes paupières se mouiller. Elle tombe, il est vrai, mais à chaque faux pas, elle se relève plus haut vers le ciel. Frappée des messages successifs que le hasard m'envoyait et qui, dans ce grand concert d'infortune, préparait par de douloureuses modulations le thème funèbre, le grand cri d'amour expirant, je m'écriais « Vous le croyez? Ce beau lys coupé refleurira dans le ciel ?»« Vous l'avez laissé fleur encore, » me répondit-il, « mais vous la retrouverez consumée, purifiée dans le feu des douleurs, et pure comme un diamant encore enfoui dans les cendres. Oui, ce brillant esprit, étoile angélique, sortira splendide de ces nuages pour aller dans le royaume de lumière. » Au moment où je serrais la main de cet homme évangélique, le cœur oppressé de reconnaissance, le comte montra hors de la maison sa tête entièrement blanchie et s'élança vers moi par un mouvement où se peignait la surprise. « Elle a dit vrai, le voici !»« Félix, Félix, voici Félix qui vient !» s'est écrié Madame de Mortsauf. « Mon ami, » reprit-il en me jetant des regards insensés de terreur, « la mort est ici. Pourquoi n'a-t-elle pas pris un vieux fou comme moi qu'elle avait entamé ?» Je marchais vers le château rappelant mon courage, mais sur le seuil de la longue antichambre qui menait du Boulingrin au perron, en traversant la maison, l'abbé Birotteau m'arrêta. « Madame la comtesse vous prie de ne pas entrer encore, » me dit-il. En jetant un coup d'œil, je vis les gens allant et venant tous affairés, ivres de douleur et surpris sans doute des ordres que Manette leur communiquait. « Qu'arrive-t-il ? dit le comte, effarouché de ce mouvement, autant par crainte de l'horrible événement que par l'inquiétude naturelle à son caractère. Une fantaisie de malade, répondit l'abbé. Madame la comtesse ne veut pas recevoir monsieur le vicomte dans l'état où elle est. Elle parle de toilette. Pourquoi la contrarier? Manette alla chercher Madeleine, et nous vîmes Madeleine sortant quelques moments après être entrée chez sa mère. Puis, en nous promenant tous les cinq, Jacques et son père, les deux abbés et moi, tous silencieux le long de la façade sur le boulingrin, nous dépassâmes la maison. Je contemplais tour à tour Montbazon et Azay, regardant la vallée jaunie, dont le deuil répondait alors, comme en toute occasion, aux sentiments qui m'agitaient. Tout à coup, j'aperçus la chère mignonne courant après les fleurs d'automne et les cueillant sans doute pour composer des bouquets. En pensant à tout ce que signifiait cette réplique de mes soins amoureux, il se fit en moi je ne sais quel mouvement d'entrailles. Je chancelai, ma vue s'obscurcit, et les deux abbés entre lesquels je me trouvais me portèrent sur la margelle d'une terrasse où je demeurai pendant un moment comme brisé, mais sans perdre entièrement connaissance. « Pauvre Félix, me dit le comte, elle avait bien défendu de vous écrire, elle sait combien vous l'aimez. Quoique préparée à souffrir, je m'étais trouvée sans force contre une attention qui résumait tous mes souvenirs de bonheur. La voilà, pensais-je, cette lande desséchée comme un squelette, éclairée par un jour gris, au milieu de laquelle s'élevait un seul buisson de fleurs que jadis, dans mes courses, je n'ai pas admiré sans un sinistre frémissement et qui était l'image de cette heure lugubre. Tout était morne dans ce petit castel, autrefois si vivant, si animé. Tout pleurait, tout disait le désespoir et l'abandon. C'était des allées ratissées à moitié, des travaux commencés et abandonnés, des ouvriers debout regardant le château. Quoique l'on vendangeât les clos, l'on n'entendait ni bruit ni babil. Les vignes semblaient inhabitées, tant le silence était profond. Nous allions comme des gens dont la douleur repousse des paroles banales, et nous écoutions le comte, le seul de nous qui parla. Après les phrases dictées par l'amour machinal qu'il ressentait pour sa femme, le comte fut conduit par la pente de son esprit à se plaindre de la comtesse. Sa femme n'avait jamais voulu se soigner, ni l'écouter quand il lui donnait de bons avis. Il s'était aperçu le premier des symptômes de la maladie, car il les avait étudiés sur lui-même, les avait combattus, et s'en était guéri tout seul, sans autre secours que celui d'un régime, et en évitant toute émotion forte. Il aurait bien pu guérir aussi la comtesse, mais un mari ne saurait accepter de semblables responsabilités, surtout lorsqu'il a le malheur de voir en toute affaire son expérience dédaignée. Malgré ses représentations, la comtesse avait pris Origet pour médecin. Origet, qui l'avait jadis si mal soigné, lui tuait sa femme. Si cette maladie a pour cause d'excessif chagrin, il avait été dans toutes les conditions pour l'avoir. Mais quels pouvaient être les chagrins de sa femme? La comtesse était heureuse, elle n'avait ni peine ni contrariété. Leur fortune était, grâce à ses soins et à ses bonnes idées, dans un état satisfaisant. Il laissait Madame de Mortsauf régner à Clochegourde. Ses enfants bien élevés, bien portants, ne donnaient plus aucune inquiétude. D'où pouvait donc procéder le mal? Et il discutait, et il mêlait l'expression de son désespoir à des accusations insensées. Puis ramené bientôt par quelques souvenirs à l'admiration que méritait cette noble créature, quelques larmes s'échappaient de ses yeux, secs depuis si longtemps. Madeleine vint m'avertir que sa mère m'attendait. L'abbé Birotteau me suivit. La grave jeune fille resta près de son père, en disant que la comtesse désirait être seule avec moi et prétextait la fatigue que lui causerait la présence de plusieurs personnes. La solennité de ce moment produisit en moi cette impression de chaleur intérieure et de froid au dehors qui nous brise dans les grandes circonstances de la vie. L'abbé Birotteau, l'un de ces hommes que Dieu a marqués comme siens, en les revêtant de douceur, de simplicité, en leur accordant la patience et la miséricorde, me prit à part. « Monsieur, me dit-il, Sachez que j'ai fait tout ce qui était humainement possible pour empêcher cette réunion. Le salut de cette sainte le voulait ainsi. Je n'ai vu qu'elle et non vous. Maintenant que vous allez revoir celle dont l'accès aurait dû vous être interdit par les anges, apprenez que je resterai entre vous pour la défendre contre vous-même et contre elle peut-être. Respectez sa faiblesse. Je ne vous demande pas grâce pour elle comme prêtre, mais comme un humble ami que vous ne saviez pas avoir et qui veut vous éviter des remords. Notre chère malade meurt exactement de faim et de soif. Depuis ce matin, elle est en proie à l'irritation fiévreuse qui précède cette horrible mort, et je ne puis vous cacher combien elle regrette la vie. Les cris de sa chair révoltée s'éteignent dans mon cœur, où ils blessent des échos encore trop tendres. Mais Monsieur Dominis et moi, nous avons accepté cette tâche religieuse afin de dérober le spectacle de cette agonie morale à cette noble famille qui ne reconnaît plus son étoile du soir et du matin. Car l'époux, les enfants, les serviteurs, tous demandent « Où est-elle ?» tant elle est changée. À votre aspect, les plaintes vont renaître. Quittez les pensées de l'homme du monde, oubliez les vanités du cœur. Soyez près d'elle l'auxiliaire du ciel et non celui de la terre. Que cette sainte ne meure pas dans une heure de doute en laissant échapper des paroles de désespoir. Je ne répondis rien. Mon silence consterna le pauvre confesseur. Je voyais, j'entendais, je marchais et n'étais cependant plus sur la terre. Cette réflexion, qu'est-il donc arrivé ? Dans quel état dois-je la trouver pour que chacun use de telles précautions ? Engendrait des appréhensions d'autant plus cruelles qu'elles étaient indéfinies. Elles comprenaient toutes les douleurs ensemble. Nous arrivâmes à la porte de la chambre que m'ouvrit le confesseur, inquiet.